Bienvenue dans le podcast de Steve Aldeman, la littérature au 7e ciel.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré au fouet dans le BDSM. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par un grand fouetteur devant l'éternel, Ombre.
Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Je suis un homme, j'ai plus de 50 ans, j'ai passé le jubilé. J'ai débuté le BDSM, j'avais un peu moins de 20 ans. Autant dire que ça a été un petit peu toute ma sexualité depuis toute ma vie. Principalement adepte des percussions, les badines, les cravaches, la ceinture, les cannes, les paddles et bien entendu le fouet.
Je sens que dès le début, tu vas faire peur aux auditeurs. Alors, je t'avais déjà interviewé avec ta compagne et soumise au pal d'ombre, que je salue au passage si elle nous écoute, et j'ai annoncé dans l'émission précédente que nous avions le projet de faire cette émission ensemble sur les fouets. Donc voilà, c'est aujourd'hui. Cette émission est basée sur un article que tu as écrit et que tu as intitulé « Sa Majesté le fouet ». Rien que ça. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à en parler?
La même chose que les articles précédents que j'ai écrits, à savoir que le savoir, ça se dispense. J'ai eu la chance d'avoir eu des gens qui m'ont appris énormément de choses, et aujourd'hui, j'estime tout à fait normal de redispenser ce savoir. Donc, j'écris des articles sur différents thèmes, dans le BDSM, que ce soit la sécurité, le journal, le mentorat, le subspace, et un jour, il est arrivé qu'on pose une question sur le fouet. Et j'ai commencé à répondre. Et j'ai vu que cette réponse méritait d'être développée. Et donc, j'ai écrit un article complet. Le plus complet possible sur le fouet. Voilà. Qui, en plus, étant mon instrument de prédilection, j'ai eu un certain plaisir à ça.
Il me semble que de mémoire, ça a été en particulier initié par une question sur le groupe Facebook BDSM francophone.
Tout à fait. Et c'est même un petit jeu parce que quand la question a été posée, j'ai commencé à répondre, mais j'ai répondu de manière très succincte. Et les modérateurs sont venus en me disant, mais tu vas nous écrire un article là-dessus.
Article qui figure d'ailleurs sur mon site internet et auxquels les auditeurs pourront aller se référer. Il y aura notamment des illustrations des fouets dont on va parler. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un fouet?
Un instrument fait d'une corde ou d'une lanière de cuir ou de plusieurs lanières attachées à un manche. Anciennement, un faisceau de verge.
En pratique, un fouet aujourd'hui, c'est quoi?
Alors, un fouet, c'est un instrument agricole et c'est également une arme qui est composée d'un manche, d'une lanière, d'un tombant et d'un craqueur. Le manche, c'est la partie que vous tenez. La lanière, c'est la partie qui va se développer. Le tombant, c'est celle qui va frapper. Et le craqueur, c'est celle qui va claquer.
Dans ton article original, tu es remonté aux origines du fouet de façon détaillée et que les auditeurs, comme je viens de le dire, hein, pourront retrouver sur mon site internet stevealdeman.com, où j'ai publié ton texte avec les illustrations. Peux-tu nous résumer en quelques mots d'où vient cet instrument, hein, comment il est né et à quoi il servait à l'origine?
À l'origine, le fouet était un instrument d'agriculture et d'élevage. Et comme beaucoup d'instruments d'agriculture et d'élevage, c'est devenu une arme. On a beaucoup d'exemples dans la vie quotidienne. Le nunchaku, par exemple, très connu des pratiquants d'arts martiaux, c'était un fléau. Voilà. Le trident, qui était une fourche. Et beaucoup d'instruments agricoles sont devenus des armes.
D'accord. Donc c'est très bien tout ça, mais à partir de quand est-ce que ce fouet commence à avoir des airs d'accessoires BDSM?
Alors ça, c'est très très vieux. Les premiers fouets qu'on a trouvés au niveau historique, de manière certaine, hein, ça date de l'Égypte antique, dans la tombe de Nébamon. C'est quelque chose qui date d'il y a 1300 ans à peu près avant notre ère. Donc c'était des instruments au départ agricoles. Et au niveau du BDSM, du plaisir, de la douleur, on en retrouve des traces dans la Rome antique, par exemple, à l'époque des Lupercales.
Alors, tu es en train de me dire, enfin, tu es en train de nous dire que les Égyptiens et les Romains faisaient déjà du BDSM?
Alors, est-ce que les Égyptiens et les Romains faisaient déjà du BDSM? Les Romains, c'est quasiment certain. C'est-à-dire que, alors, certainement pas sous la forme que nous la pratiquons, mais dans les Lupercales et dans les poèmes, romains antiques, on a des traces de plaisir, de douleur.
Une forme de masochisme déjà.
Alors que le mot n'existait pas à cette époque-là.
Pour préciser, évidemment, hein, sadisme, ça vient du marquis de Sade, et masochisme, c'est Saker Masoch,
Tout
je ne
à
sais pas si
fait.
je le prononce bien, hein, qui est un
L'Hermeloche.
écrivain de mémoire du 19e.
C'est ça,
Faudrait
tout à
vérifier.
fait.
Donc c'est relativement récent à l'échelle des ères historiques qu'on est en train d'évoquer, hein, les Romains et
À l'échelle de
l'Antiquité.
l'humanité, on est entièrement d'accord, c'est tout. C'est très récent, alors que les pratiques, en réalité, font peut-être partie, entre guillemets, du patrimoine de l'humanité. Elles ont peut-être toujours existé. On en retrouve effectivement des traces, depuis très très longtemps.
Alors, quand on a préparé cette émission, tu avais plutôt évoqué le fait que le fouet était un instrument ou un symbole de pouvoir, sans même parler de BDSM.
Alors, complètement. Au niveau des représentations égyptiennes, les premiers pharaons étaient représentés avec le sceptre et le fouet, le nekek, le fameux fouet à trois branches. Et on a eu après, dans la Rome antique, le flagellum, donc le maître de domaine ou la domina, c'est-à-dire littéralement la maîtresse du domaine. Le mot domina en latin, qui vient de domus, qui signifie le domaine, et qui donnera dans notre langue, le mot madame, et qui utilisait le flagellum pour en user sur les esclaves. Donc c'est vraiment un symbole de puissance qui n'a rien d'anodin dans notre culture.
Donc le fouet entre probablement dans le BDSM via sa représentation, enfin ses représentations là antiques, qui sont reprises ensuite dans la culture populaire.
Alors dans la culture populaire, on a pu le voir dans des films, dans des livres tels que Indiana Jones ou Zorro ou ce genre de choses. On peut le voir également dans notre culture judéo-chrétienne, où on a vu le Christ se faire fouetter. Nous avons une culture qui est basée sur une personne qui a été torturée
Avec le fouet.
avec le fouet,
Pas
le
que
fameux
ceci dit.
flagellum. Non, pas que, il a été mis en croix, etc., etc. Mais donc, on a vraiment une culture qui est basée sur un torturé. Voilà. Et effectivement, entre autres, avec le fouet.
Et donc, on en arrive au fouet dans le BDSM.
Alors, le fouet dans le BDSM. Donc, comme on a vu, il est vraiment très ancien. C'est-à-dire que même au niveau des Lupercales, on a vu que, on avait des utilités du fouet, du flagellum.
Rappelle-nous, Hupercal, c'est...
Alors, les Lupercales, dans la Rome antique, c'était des fêtes annuelles qui étaient célébrées entre le 13 et le 15 février. Donc, c'est l'équivalent, à l'heure actuelle, de notre Saint-Valentin.
Oui, c'était
Ça a été
prémonitoire.
bien calqué sur cette date. Voilà. Et c'était en l'honneur de Fannus, de Faune, le dieu de la forêt et des troupeaux. Et donc, c'était des fêtes qui étaient complètement. Je suis pas historien, hein, donc je vais pas trop m'avancer dedans, mais dans lequel il y avait une certaine luxure,
D'où le fouet.
entre autres.
En tant
Voilà.
qu'instrument, là, certes est destiné à provoquer une douleur, mais une douleur jouissive.
On est entièrement d'accord, tout à fait. C'est-à-dire que là, c'est une douleur qui est dans le cadre du plaisir. C'est pas de la sanction, c'est pas une punition, c'est dans le cadre du plaisir.
D'accord. Alors pour rentrer un petit peu maintenant dans le détail, on distingue, je me réfère à l'article que tu as écrit, hein, on distingue deux grandes catégories de fouets, les single tail à une lanière et les floggers qui en ont plusieurs. Alors le plus connu des single tail, c'est le
Ah
bull
bah,
whip.
c'est le bullwhip, tout à fait. Donc le bullwhip, c'est le fouet d'Indiana Jones, c'est le fouet de Zorro. C'est un instrument tout en cuir, c'est un manche de 25 à 40 cm qui va faire corps avec sa lanière, totalement tressée. Donc c'est vraiment l'instrument qui est utilisé à la base sur les troupeaux, qui va avoir une taille de 5, 6, 7 pieds, c'est-à-dire plusieurs mètres, 2, 3 mètres, 4 mètres même.
Ce qui en fait un bel instrument déjà.
Ce qui en fait un bel instrument, ce qui fait qu'on peut avoir un développé qui est énorme, ce qui fait que ça va avoir une vitesse d'impact qui est assez conséquente. Il faut jamais oublier que même dans le BDSM, on manie une arme. C'est-à-dire que on peut faire claquer un cracker donc à la vitesse du son et à l'impact, on peut ouvrir la peau.
Très clairement, c'est quelque chose avec lequel on peut faire mal, mais c'est également quelque chose avec lequel on peut blesser, ce qui est clairement pas l'objectif dans le BDSM, hein, quand on parle de
C'est
vraies
même pire que
blessures.
blesser, puisqu'il y a des fouets qui ont été des instruments de mort. On le
D'accord.
verra peut-être, on le verra après, mais
Oui, on va en parler ensuite.
il y a des fouets qui ont été des instruments de peine capitale. Donc
Fallait être un peu sadique quand même, parce que c'est pas le truc le plus rapide pour mourir, hein.
c'est pas le truc le plus rapide, mais justement, c'était fait justement pour ça. Voilà. Donc c'est une arme. Faut jamais l'oublier.
Alors, il y a une chose qui fait un peu triper les gens dans le BDSM, que voilà, c'est connu, c'est quelque chose on le disait notamment, et qui hérite un petit peu d'un instrument de pouvoir. Mais alors, s'il y a bien une chose, notamment avec certains fouets, parce qu'on va pas se faire mal avec un martinet, surtout un martinet de pacotille, mais le bullwhip en question, bah, il peut avoir deux usages. Soit on ne sait pas s'en servir et on est maso, mais on va se faire mal tout seul. Parce qu'on peut bien et assez rapidement se le reprendre dans le nez.
À
Soit on
fait.
sait bien s'en servir, et là on peut faire autre chose et on se fera pas forcément mal soi-même. On pourra atteindre sa cible.
À fait, oui. Donc, effectivement, il faut avoir une certaine connaissance de l'instrument et de la manière de s'en servir. Et effectivement, quand on le fait claquer dans l'air, il a une certaine tendance à revenir directement vers la personne.
Il a fait claquer.
Voilà, tout à fait. Et donc pour ça, moi j'ai connu une fois où je me le suis repris en plein visage. Voilà, donc ça a été très drôle, surtout le lendemain.
Je suis en
Quand
train de
on
me marrer en
revient,
imaginant la scène.
mais c'est pas ça, c'est quand on revient au boulot et qu'on a une balafre sur la joue et qu'on vous dit qu'est-ce qui vous est arrivé.
Ah, c'est plus compliqué à expliquer, c'est sûr.
Allez raconter que vous avez manié un fouet et que vous voulez être repris. Voilà,
Alors,
c'est pas
j'imagine.
toujours évident.
Ouais, c'est pas simple. Mais alors, j'imagine encore plus le visage de celui ou celle qui était censé prendre le coup, qui sur le coup doit s'amuser un petit peu quand même. Ça doit pas être évident à gérer.
Alors ça, je connais pas parce que le jour où ça m'est arrivé, je m'entraînais tout seul. Donc, je n'ai pas eu ce cas-là. Voilà. Mais oui, effectivement, donc c'est très complexe d'expliquer ça en radio. C'est-à-dire qu'il y a une manière de faire et d'appliquer le fouet. Et effectivement, le fait de le faire claquer dans l'air, il a une tendance naturelle quand le brin se déploie. Quand il arrive au bout, eh bien la vitesse repart dans l'autre sens.
Bah, il
Tout
est
simplement.
relativement élastique, donc on le tend, bah, il se détend, quoi, aussi
Ben,
simplement que ça.
tout à fait, et il revient, mais à la même vitesse, comme une balle de fusil.
J'ai
Vous n'avez pas le temps de l'éviter, c'est clac, oh, punaise.
du mal à pas en rire.
Ah ben, moi
Alors,
aussi.
de mémoire.
Et alors, ça n'a rien à voir avec de l'expérience, parce que ça m'est arrivé encore récemment, hein. C'est-à-dire au bout de 30 ans, voilà, c'est-à-dire où je manie assez bien l'instrument. Il m'est arrivé encore récemment une fois de me le reprendre dans le ventre, mais quelque chose de bien.
Ouais, ça peut se camoufler, ça va.
Tout à fait, mais on va dire au niveau de la fierté personnelle, c'est un petit peu con, quoi.
Mais dans la mesure où les dominants sont pas réputés pour être peu fiers, c'est ça qui me fait sourire. J'imagine que de temps en temps, la personne qui devait prendre le coup, ça doit le faire sourire quand même, ou ça doit la faire sourire.
Je sais pas. Je me mettrai pas à la place d'un torturé.
Alors précisément, je voulais aborder, puisqu'on parle de ça, le fameux... alors certains, on va parler des différents fouets qui existent, des différents types de fouets, mais s'il y a bien un qui peut faire mal, et très mal, surtout si on ne fait pas attention et qui peut blesser, c'est bien le bullwhip. La question que je me pose, c'est les ratés dans le BDSM, j'imagine que ça peut arriver. Le fait de ne pas bien maîtriser l'instrument et de blesser sans l'avoir voulu son partenaire ou sa partenaire, en particulier si on démarre avec des instruments qui peuvent être plus dangereux qu'un martinet, tout bonnement, avec des lanières moins longues.
Alors oui, généralement on préconise aux gens qui débutent d'avoir des lanières très courtes, c'est-à-dire des fouets très petits, de 2 pieds, 3 pieds, pas plus, où on va avoir peu de vitesse et où on va pouvoir avoir un geste plus précis parce que on est à une petite distance. Et plus on va avoir de l'expérience, plus on va avoir un fouet long et où on va pouvoir être à distance, et avec la distance, l'amplitude, et avec l'amplitude, l'impact.
Quand bien même on serait très expérimenté, j'imagine qu'on ne débute pas avec une personne qui n'y connaît rien directement avec un bullwhip.
Oui et non.
Je parle de la soumise là, du soumis ou de la soumise. Hein.
Alors, du soumis ou de la soumise, faudrait poser les questions à une soumise expérimentée. Mais personnellement, en tant que dom, non, on ne se fait pas attacher sur une croix à se faire fouetter par quelqu'un qui ne maîtrise pas l'instrument. C'est dangereux. Voilà.
Clairement.
Encore une fois, c'est une arme. C'est dangereux. Donc, même si on y va doucement ou quoi, on peut faire mal, on peut faire très mal. Donc, on y va vraiment en connaissance de cause et en sachant que c'est dangereux. Donc, avec beaucoup de précautions.
D'accord. Alors, l'instrument suivant dont tu as parlé dans ton article, c'est le Snake Whip.
Alors, c'est la même chose que le boule. Sauf que il n'y a pas de différence entre le manche et la lanière. C'est-à-dire que c'est une grande lanière. Et moi, personnellement, je n'utilise que des snakes.
Dis-nous pourquoi, tant qu'on y est.
Parce que le premier que j'ai eu, c'était ça, et que je me suis habitué à ce genre de fouet. C'est pas que le boule, le stock ou le snake soient meilleurs l'un ou l'autre. C'est simplement une question de préférence.
Donc après le bull whip et le snake whip, il y a le stock whip. Alors est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, le stock whip, c'est un fouet donc, dont la particularité est que le manche et la lanière sont indépendants. C'est-à-dire qu'il y a une séparation entre les deux. Donc, soit c'est une petite tresse de cuir, soit un anneau. Il est un peu plus complexe à manier. Mais par contre, il a un avantage, c'est-à-dire qu'avec cette articulation, on peut arriver à avoir un mouvement avec une amplitude qui est bien plus grande.
Quelque part, ça fait penser à une sorte de nunchaku avec un côté souple.
C'est à peu près ça.
Voilà. Je rappelle aux auditeurs qu'ils pourront aller voir des illustrations de ces différents types de fouets sur mon site internet, l'article dédié. Tu l'as utilisé celui-là, tu le connais?
Une fois, c'est pas mon instrument de prédilection, c'est même un instrument que je n'ai pas aimé personnellement. Il faut vraiment, vraiment énormément de pratique pour arriver à maîtriser cet instrument.
D'accord. Quand tu dis ça, on a
C'est...
l'impression que lui aussi t'a torturé.
Alors, il m'a torturé, oui, parce que j'ai été incapable d'y arriver.
D'accord, ok.
Voilà,
Donc, il faut vraiment un
c'était,
entraînement particulier.
voilà, ça partait, c'est-à-dire que moi j'en ai utilisé un avec un anneau, donc ça partait dans tous les sens et j'avais, avec un stock ou un snap, on transmet directement l'impulsion que l'on donne sur toute la longueur. Et là, avec l'anneau entre les deux, faut vraiment avoir un mouvement particulier pour arriver à ce que l'on veut. Et
Oui.
c'est exactement le même, la même chose que pour les pratiquants d'arts martiaux qui ont fait du nunchaku. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un bâton, une chaîne, un autre bâton.
Oui, puis je
Et
vois très bien de quoi tu parles parce que je me souviens que mon frère en avait un quand il était petit. On n'a jamais fait mal à personne avec, par contre, on s'est fait mal à nous-mêmes.
voilà, par contre, quand on voit les films de Bruce Lee, enfin, bon, les films de Bruce Lee, ça c'est le côté populaire, mais effectivement, les pratiquants d'arts martiaux avec un nunchaku sont très efficaces. Par contre, je suis certain qu'au départ, ils s'en fait mal.
C'est peut-être pour ça qu'ils sont efficaces, ils sont motivés à plus faire mal eux-mêmes.
Voilà, tout à fait. Eh ben, le Sockwipe, c'est un petit peu le nunchaku, du BDSM.
D'accord, faut maîtriser.
Voilà,
Cela dit,
tout à
j'imagine
fait.
qu'une fois qu'on sait s'en servir, on doit impressionner la galerie.
Alors, moi, le monsieur que j'ai vu pratiquer, effectivement, oui.
Alors le fouet suivant, c'est le ou la chicotte. Le
Ah,
chicotte, tu as écrit.
le chicotte. Oui, alors le chicotte, c'est un fouet un peu particulier. C'est un fouet d'origine belge qui était tressé, mais de manière très serrée, c'est-à-dire qu'il était rigide.
D'accord.
Généralement, il avait un brin ou deux, pas plus. C'est un petit peu ce qu'on connaît, nous, en Occident, sous le nom de nerf de bœuf.
Oui.
Ça ressemble un peu plus à une matraque.
Oui, clairement,
Une
hein.
matraque un peu longue, que historiquement, il était en cuir d'hippopotame. Alors, ça fait partie d'une partie de l'histoire occidentale qui n'est pas glorieuse. Ça fait partie de l'histoire coloniale.
Belge, qui...
Tout à fait, oui, belge, mais je présume que ça a été utilisé par d'autres pays.
Notamment au Congo belge, où paraît-il, Congo belge qui de mémoire était une, n'était pas vraiment une colonie comme l'étaient les autres, puisque c'était la propriété personnelle du roi des Belges de mémoire à l'époque, et où il y a eu un certain nombre d'exactions particulièrement sanglantes, effectivement.
Bah, comme un petit peu toutes les colonies. Mais bon.
Dans un certain nombre de colonies, oui.
Voilà. Et voilà, donc c'était, oui, peut-être considéré comme une matraque un peu longue, très lourde, très très lourde, et qui a été utilisée comme instrument de mort, parfois même. Voilà.
On se
Donc.
demande, comme ça, à t'en entendre parler, on se demande bien à quoi peut servir un tel instrument dans la relation BDSM.
Comme tout instrument dans une relation BDSM. Dans une relation BDSM, on utilise des fouets, on utilise des martinets, on utilise des couteaux
De façon
également.
mesurée.
Voilà. Donc, à quoi peut servir un chicotte dans une relation BDSM? Ben, à la même chose.
Ce qui fait que je me pose la question, c'est que comme il est lourd et à la fois dur, effectivement, on peut se poser la question de comment s'en servir sans être particulièrement attentif à la personne sur laquelle on s'en sert, quoi.
Ah, on est toujours attentif sur la personne sur laquelle on s'en sert. Je veux dire, ça, c'est une condition qu'on ne peut pas oublier. On doit toujours être totalement attentif sur la personne sur laquelle on s'en sert. Donc, vous pouvez utiliser ce genre d'instrument qui est lourd, qui va être très douloureux et que vous allez devoir manier justement avec énormément de précautions.
Il y en a un autre qui lui ressemble manifestement beaucoup, c'est le Jambok.
Alors le Jean Bock, bah, c'est un petit peu son petit frère. Ça a été un fouet qui était utilisé en Afrique du Sud. Il était en cuir de rhinocéros à la base. C'est donc pareil entre le fouet et la matraque très longue. Un instrument vraiment redoutable. Il a été utilisé par la police lors de l'apartheid.
Alors,
Alors,
j'avais envie de dire, évitons de faire peur aux auditeurs et parlons de son usage dans le BDSM.
au niveau du BDSM, de la même manière que la chicotte, c'est un instrument très lourd que l'on doit manier avec énormément de précaution. C'est-à-dire qu'il y a un poids qui va se déployer avec le geste, qui va arriver de manière très lourde. Donc, il va falloir vraiment réguler son geste pour ne pas occasionner de blessure. C'est
D'accord.
vraiment une maîtrise de l'objet.
Peut-être surtout enfin aussi faire attention aux endroits qu'on vise avec, aux endroits sur lesquels on fait des impacts avec ce type d'instrument en particulier.
En particulier, tout à fait. Alors, on va viser effectivement des parties charnues, telles que les fesses ou telles que les cuisses au départ. Là où il n'y a pas d'os, où on peut occasionner un bleu. On va éviter toutes les parties sensibles, toutes les parties où il y a des organes. On va jamais frapper au ventre, jamais dans les reins.
Qui est valable pour beaucoup de fouets, là, pour le coup, et pour beaucoup d'instruments d'impact, de toute façon.
Après, une fois qu'on a une certaine expérience, on peut passer à d'autres zones. Mais au départ, on va viser essentiellement, oui, par exemple, les fesses. Parce que sur les fesses, il n'y a pas d'organes vitaux.
Le fouet suivant, c'est celui d'attelage.
Alors, le fouet d'attelage, c'est un fouet très intéressant. C'est ce qu'on appelle le fouet du cocher. C'est un fouet qui a un très long manche, 1 mètre, 1,20 m, même des fois plus. Et après, donc, il y a une lanière. Cette lanière, c'est une mèche qu'on appelle, ça mesure à peu près 1 mètre et ça a une amplitude très très large. Et c'est vraiment très intéressant parce que on a la maîtrise de la mèche jusqu'à 1 mètre ou 2 mètres selon le manche. Et on vient caresser, le torturer ou la torturer avec ça. C'est une utilisation qui est un peu complexe, qui réclame d'avoir beaucoup d'espace. On ne peut pas faire ça dans une chambre, clairement. Qu'on utilise énormément dans tout ce qui est éducation anglaise ou dans le pet play également, parce que c'est un fouet qui est fait pour les chevaux.
Un fouet beaucoup moins lourd que les deux précédents, Chicotte et
Ah
Jambok,
non!
rien à voir, hein. C'est bien pour
Très
ça que d'ailleurs
léger.
tu parles de caresser. Ouais.
Ah, complètement, complètement. Qui est un fouet très, très léger. Par contre, l'amplitude et la vitesse font qu'ils peuvent faire mal. Mais très léger.
Dans le même genre, on a la chambrière.
Alors, la chambrière, c'est à peu près le même fouet. Sauf que la différence, c'est que le craqueur est fait en une mèche de coton. Parce que la chambrière, à la base, c'est fait pour les chevaux en manège. Et donc, c'est un fouet qui est destiné à les diriger et absolument pas à faire mal.
On est typiquement dans deux fouets, le fouet du cocher et la chambrière, qui ont un impact psychologique pour ceux à qui il est destiné, ceux ou celles à qui il est destiné, hein, soumis, soumise ou dans le pet play, peu importe, que les précédents qui sont vraiment destinés à faire mal, là, pour le coup, à faire ressentir des douleurs, certes jouissives, mais des douleurs quand même.
Tout à fait. Alors, la chambrière et le fouet d'attelage sont plus des instruments d'éducation que de douleur.
D'accord.
Clairement. Voilà.
Alors, après le fouet d'attelage et la chambrière, il y a le fouet de vénerie. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le fouet de vénerie?
Alors, le fouet de vénerie, c'est un fouet de chasse. Donc, c'est le fouet du chasseur. C'est le fouet de meute qu'on utilise généralement, effectivement, alors par contre dans les chasses à courre. Elle est composée généralement d'un manche. Elle peut être quand même assez prestigieuse avec un pommeau, une belle lanière de cuir. Par contre, effectivement, c'est un fouet donc qui est indépendant entre le manche et la lanière, comme le stockwipe, donc qui va être très difficile d'utilisation, mais qui a quand même une certaine prestance.
D'accord, c'est-à-dire que pour le dominant ou pour l'amateur de fouet dans le cas de BDSM, il y a un certain standing là à utiliser un fouet de vénerie, c'est ça que tu veux dire?
Complètement. Et bien, en plus de savoir le manier. Et le fouet de vénerie, en plus, a une particularité, c'est-à-dire que son craqueur, la fin, est composée d'une lanière de cuir qui est plate, généralement, et qui peut venir vraiment lécher la personne que l'on fouette. Très particulier à utiliser, pas évident, mais très intéressant.
Alors ça, c'était le dernier des single tail dont on parlait au tout début, hein, les fouets à une seule lanière. Maintenant, on va parler des floggers, multilanières, à l'image des martinets. Alors, quand on parle de multilanières, ça veut dire quoi? 2, 3, 15, 20?
Oh, ça peut être beaucoup, une dizaine ou une vingtaine même. On va avoir le Cat of Nine, qui est peut-être le plus connu de tous, qui est un fouet à 9 brins.
Comme son nom l'indique.
Alors, la différence essentielle entre les single tine et les floggers, c'est que la vitesse, l'amplitude n'est pas du tout la même. On fera pas un claque avec un flogger.
Donc on peut partir du principe que ça fera moins mal.
Absolument pas. Parce que justement, on va y avoir 9 brins qui vont s'abattre avec leur poids et avec l'amplitude qui vont justement créer de la douleur. Et généralement, les floggers vont être accompagnés dans leurs brins de nœuds sur les brins ou de perles ou d'objets qui vont alourdir les brins. Ça ne fait pas moins mal, mais par contre, c'est une douleur totalement différente. Il y a une différence entre le single tie qui va être une langue qui va venir s'abattre et envelopper le membre ou la partie charnue et le flogger qui va s'abattre lourdement.
Après le Cat of Nine, on a le martinet classique que beaucoup de gens connaissent.
La base.
J'ai apprécié la citation que tu as mise sur ton article. Viens ici, sale gamine, tu vas voir ce que tu vas prendre.
C'est ça, voilà. La base, c'est le martinet, c'est le symbole de la punition, c'est ce qu'on a connu pour les plus anciens d'entre nous, qui était une punition. Ça existait dans nos familles. Alors
Ah,
moi,
clairement, il y en avait
personnel,
dans ma... quand j'étais jeune, ouais, mes parents en avaient.
voilà. Moi
Je l'ai dit.
personnellement, je l'ai pas connu, mais par contre, le premier martinet que j'ai acheté, je l'ai acheté dans une droguerie. On vendait ça pour les enfants. Et le premier martinet que j'ai eu dans le BDSM, je l'ai acheté dans une droguerie. Donc le vendeur était persuadé que je devais l'acheter pour mes enfants.
Fort possible. Ceci,
Voilà.
il y en avait à la maison, mais. Les martinets, il y a martinet et martinet, on va dire. Hein. Martinet, faut vraiment y mettre de la force pour que ça fasse mal, j'ai envie de dire. En tout cas, ceux qu'il y avait dans la famille pour les enfants. Hein.
Non, mais ça peut faire mal. On peut toujours taper comme une brute.
On peut toujours taper
Mais.
comme une brute, on est bien d'accord. Mais c'est plus le martinet qui fait mal, c'est le bras.
Voilà, et le but du BDSM, ça n'est jamais de taper comme une brute.
On est bien d'accord.
C'est toujours de donner de la douleur avec un plaisir. Effectivement, oui, donc le martinet, c'est effectivement le premier instrument qu'on va utiliser parce que il a une amplitude très courte, donc on voit très bien là où on frappe, à moins de frapper comme une brute qui fait pas trop mal. Donc ça va être le premier instrument. Par contre, c'est pas l'instrument qui est dénué d'intérêt, hein. Moi, j'ai vu des exhibitions même d'un dom novice qui maniait des martinets. Au lieu d'avoir des manches, il avait des anneaux et il en avait deux, un dans chaque main. Et c'était fabuleux. Il arrivait à avoir une dynamique qui était juste merveilleuse.
Et puis ça devait être joli, ça peut être joli à voir, hein. Il y a une esthétique dans
Esthétique.
le.
Esthétiquement, en plus, c'était fabuleux.
Hein, il y a
Voilà.
une esthétique dans l'usage du fouet aussi.
Complètement.
Alors le
Complètement.
dernier de ta liste, c'est le Knut. J'imagine que c'est
Ah,
comme ça, que ça se prononce
le
comme ça.
Knut. Alors que le knout, c'est un instrument de fantasme. Littéralement, en russe, ça veut dire fouet, donc ça signifie tous les fouets, mais chez nous, en Occident, c'est un instrument qui est composé d'un manche, d'une lanière et de plusieurs lanières, mais qui sont rattachées à la lanière principale. C'était un fouet qui était composé au niveau de ses branches, soit de nœuds sur les brins, donc ce qui les rendait plus lourds, mais généralement de pointes métalliques ou de pointes de barbelés sur toute la longueur, ou de billes de métal, ou encore de crochets, d'hameçons, même de lames. C'était un instrument.
Je me dis que certains auditeurs doivent imaginer que l'inventivité humaine n'a pas de limite, surtout quand il s'agit d'instruments de torture.
Bah, quand on parle d'instruments de torture, je veux dire, il suffit d'aller dans n'importe quelle ville, il y a toujours un musée de la torture ou quoi, et où on voit que l'humanité a été débordante d'imagination à ce niveau-là. Voilà. C'était un instrument de mort qui était fait pour dépecer quelqu'un, mais vivant.
J'imagine que sous cette forme-là, ce n'en est pas un qu'on croise souvent dans le BDSM.
Alors, dans le BDSM, moi j'en ai vu un, hein, mais en tant qu'instrument de présentation.
D'apparat, quoi.
Voilà. C'était pas utilisé. Il était là, il était posé, il était dans un cadre.
D'accord. Alors, on a fait un petit peu le tour des différents types de fouets qui existent. Bon, j'imagine que on les connaît pas forcément tous non plus, hein, mais l'objectif n'était pas d'être exhaustif. Alors, tu avais quelques petites choses à nous dire sur l'usage du fouet dans le BDSM, en relation avec le BDSM. On t'écoute.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le fouet? Le fouet, c'est une arme. En avoir un grand, c'est bien. Savoir l'utiliser, c'est mieux. Donc, comme je l'ai dit deux, trois fois, si vous commencez, si vous débutez, prenez un petit. Plus vous progresserez, plus vous augmenterez la taille. La précision, ça viendra avec l'entraînement. Commencez par frapper avec la main, puis prenez un instrument, une baguette, un fouet, un martinet, ce que vous voulez, un paddle, ce genre de choses. Parce que c'est très simple de frapper comme une brute, de faire mal. Un amateur peut le faire, hein. Mais savoir doser l'intensité, la douleur, savoir amener la personne au plaisir, au subspace, si vous avez déjà entendu ce mot. Voilà, c'est bien plus délicat. Et c'est bien là le but. Quand vous avez une personne masochiste, c'est de l'amener à ça.
L'appréciation du plaisir que peut y trouver une personne soumise ou masochiste est quelque chose que je vais aborder dans un podcast, dans une émission ultérieure, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que des soumis ou soumises ou masochistes, même s'ils ne sont pas soumis, pour dire ce qu'ils ressentent. Donc ça, je pense que c'est un sujet que je vais aborder ultérieurement parce qu'il est très intéressant. Notamment pour qu'on comprenne ce qu'ils ressentent et pourquoi ça leur plaît, d'aborder ce sujet-là avec eux. Parce que être juste dominant ou parler du fouet, mais sans pouvoir faire ressentir ce que les personnes qui sont fouettées y trouvent comme plaisir, bah ça a moins d'intérêt. Donc c'est vrai que je ferai une autre émission là-dessus. Alors, dans ton article, tu parles de la taille des fouets, ne serait-ce que pour l'usage qu'on peut en faire, notamment quand on est en intérieur. Alors, tu as une expérience par rapport à ça, parce que un fouet comme une chambrière, par exemple, c'est assez long à utiliser dans une pièce, suivant la taille de la pièce, ça doit pouvoir faire des dégâts ailleurs que sur la personne qu'on veut fouetter, j'imagine.
Alors oui, c'est un gros problème. À partir du moment où on a un fouet d'une certaine taille, il faut pouvoir pratiquer dans une certaine pièce ou à l'air libre. Il m'est arrivé plusieurs fois d'attraper mon lustre.
Il est tombé.
Alors, non, il n'est pas tombé, mais je me suis retrouvé un petit peu comme un con avec les bras enroulés dans le lustre, qui était en train de bouger, avec la soumise attachée, moi en train de paniquer du genre je vais tout arracher, je vais déferler l'électricité de mon appartement. Voilà, il m'est arrivé de casser un bibelot, voilà, de l'attraper sans l'avoir voulu, donc de l'avoir foutu par terre. Voilà, ce genre de
J'imagine
conneries.
le côté un peu moqueur de la soumise que tu as ratée.
Alors, jamais, jamais, mes soumises ne se moquent pas parce qu'elles savent que si elles se moquent, ça va chier. Mais bon,
Intérieurement,
alors,
ça doit sourire quand même.
tout à fait, tout à
À
fait, c'est.
moins que, comment dire, les yeux bandés, elles aient rien vu, mais. Ou alors c'est la peur de prendre le lustre sur la tronche.
Non, généralement elles l'ont vu ou elles l'ont compris. Généralement elles m'aident à ramasser mes conneries. Voilà. Donc voilà, un homme, hein, ça peut faire des conneries et une soumise, ça peut aider à ramasser le lustre qui est tombé par terre. Voilà. Et oui, effectivement, ça donne des choses très drôles. J'ai même un voisin un jour qui est venu sonner chez moi en me demandant si c'était chez moi qu'il y avait des coups de feu. Les coups de feu, c'était le fouet qui claquait.
Ah ouais, bah oui.
Donc pour savoir que le claque, ça fait vraiment une détonation. Et quand j'ai ouvert la porte au voisin, ce qu'il ne savait pas, c'était que derrière la porte, alors que moi j'étais en train d'ouvrir la porte, qu'il était dans le couloir et que je lui parlais, derrière il y avait une soumise à poil. Voilà.
Ben oui, forcément. Mais c'est des situations amusantes, hein. C'est forcément amusant.
Tout à fait. Voilà. Donc, au final, Sa Majesté le fouet. Et je vais rendre à César ce qui est à César, parce que c'est important pour moi. Sa Majesté le fouet, cette phrase, c'est une soumise qui un jour me l'a donnée, où je lui avais dit, écris-moi quelque chose sur le fouet que tu aimes. Et elle l'avait titré comme ça. Au final, ce sera toujours l'expression de ce que l'on est, en tant que d'homme, en tant que domina, en tant que bourreau. Ça n'est que l'expression de votre personnalité. C'est également un instrument de plaisir. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans un livre de Denis Robert qui s'appelle Le Bonheur, qui dit ceci. Le fouet a cet avantage sur les caresses. Ses traces durent longtemps.
Bon, ça peut faire le mot de la fin.
Merci à toi, Steve. Merci aux auditeurs et à bientôt.
Merci encore à toi et au plaisir éventuellement de refaire une émission ensemble.
Sans problème.
Cet épisode est maintenant terminé. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdeman.com pour y trouver les liens en question. D'autres articles ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.